Vous écoutez RTL.
RTL vous en parle déjà. Rémi Sulmont.
Bonjour Rémi.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez déjà du destin de femmes au cœur du meurtre le plus spectaculaire de l'année. Vendredi, elles vont comparaître en Malaisie pour avoir assassiné Kim Jong-nam, le demi-frère du dictateur nord-coréen.
Oui, si vous avez vu ces images en février dernier, vous ne pouvez pas les avoir oubliées. Car désormais, Yves, les assassinats, même ceux qui ont l'air de dater d'une autre époque, la guerre froide, peuvent être filmés sur la vidéosurveillance de l'aéroport de Kuala Lumpur, dans le terminal d'embarquement low cost. On voit les deux jeunes femmes s'approcher de leur proie. Ça dure quelques secondes. L'une d'elles porte, on n'oserait pas l'inventer, un t-shirt LOL en français, MDR, mort de rire. Elle arrive dans le dos de sa cible et lui frotte le visage avec un mouchoir. Attablé à un restaurant à proximité, quatre hommes des Nord-Coréens assistent à l'assassinat au poison, puis s'empressent d'embarquer dans un avion. Quelques jours plus tard, en empruntant tous les quatre des itinéraires différents, ils atterrissent à Pyongyang, intouchables. Les deux jeunes femmes, les seules que la justice de Malaisie a réussi à rattraper, savaient-elles qu'elles avaient dans ce mouchoir du VX une version de gaz sarin tellement mortel qu'il a été classé arme de destruction massive par l'ONU? Savaient-elles que leur cible n'aurait que quelques minutes à vivre, que Kim Jong-nan, le demi-frère du dictateur Joufou, allait mourir dans une ambulance? Sont-elles, elles aussi, des espionnes payées par Pyongyang, des matahari low cost, ou bien sont-elles des marionnettes, à leur tour victimes de stratagèmes diaboliques du dernier régime totalitaire du monde?
Question évidemment essentielle, est-ce qu'on a un début de réponse à la veille de leur comparution?
Non, c'est pour cela que le procès qui va s'ouvrir sera précieux. Les profils des deux jeunes femmes, 25 et 28 ans, ne collent pas à ceux des agents auxquels Pyongyang nous a habitués. D'abord, elles ne sont pas nord-coréennes, l'une est vietnamienne, l'autre indonésienne, originaire de milieux pauvres et ruraux, immigrée en Malaisie. Tout indique qu'elles évoluaient dans l'industrie du sexe. Devant leur juge, elles devraient à nouveau expliquer qu'elles croyaient participer à une caméra cachée pour la télé, qu'elles se sont fait piéger. A l'inverse, la police de Kuala Lumpur affirme qu'elles s'étaient entraînées à maintes reprises pour être sûres de tuer et qu'elles ont eu, je cite, des contacts réguliers avec des agents nord-coréens. Entre ces deux scénarios, les meilleurs spécialistes de la Corée, Sébastien Faletti ou Antoine Bondaz, que j'ai appelé, ne tranchent pas. La Corée du Nord, qui laisse des agents se faire prendre par l'ennemi après une opération sans qu'ils se suicident, c'est du jamais vu. Il y aurait donc une forme de revendication de la part du dictateur Kim Jong-un, qui veut rappeler au monde qu'une menace qu'on oublie, analyse Antoine Bondaz du série, la Corée du Nord dispose du troisième stock d'armes chimiques au monde.
Est-ce que ces deux suspects en procès pourraient être à leur tour assassinés si elles se mettent à parler?
Disons que les gilets pare-balles prévus pour elles pour se rendre au tribunal ne seront pas superflus, on va dire ça comme ça, surtout si elles dévoilent les commanditaires. D'un autre côté, devant la justice de Malaisie, elles risquent la pendaison. Depuis l'assassinat, les membres de la famille de Kim Jong-nan ont également enregistré le message. Ils se savaient menacés, désormais ils se tairent, notamment le fils aîné, le jeune Han Sol, ou en Asie, vraisemblablement. Le Premier ministre Édouard Philippe a peut-être suivi le dossier de près, Yves. Ces trois dernières années, le neveu du dictateur, étudiant à Sciences Po au Havre, était protégé par les services français dans la ville du Premier ministre jusqu'à l'automne dernier.
Rémi Sulmont.